Chapitre 2. Dès le petit jour, des éclats de voix ébranlèrent le moulin. Le père Merlier était venu ouvrir la porte de Françoise. Elle descendit dans la cour, pâle et très calme. Mais là, elle ne put réprimer un frisson. En face du cadavre d'un soldat prussien qui était allongé près du puits sur un manteau étalé. Autour du corps, des soldats gesticulaient, criaient sur un ton de fureur. Plusieurs d'entre eux montraient les poings au village. Cependant, l'officier venait de faire appeler le père Merlier comme maire de la commune. « Voici, lui dit-il d'une voix étranglée par la colère, un de nos hommes que l'on a trouvé assassiné sur le bord de la rivière. Il nous faut un exemple éclatant et je compte que vous allez nous aider à découvrir le meurtrier. » « Tout ce que vous voudrez, répondit le meunier avec son flegme. Seulement, ce ne sera pas commode. » L'officier s'était baissé pour écarter un pan du manteau qui cachait la figure du mort. Alors apparut une horrible blessure. La sentinelle avait été frappée à la gorge et l'arme était restée dans la plaie. C'était un couteau de cuisine à manche noire. « Regardez ce couteau, dit l'officier au père Merlier. Peut-être nous aidera-t-il dans nos recherches. » Le vieillard avait eu un tressaillement, mais il se remit aussitôt, et il répondit sans qu'un muscle de sa face bougeât. « Bon, tout le monde a des couteaux pareils dans nos campagnes. Peut-être que votre homme s'ennuyait de se battre et qu'il sera fait son affaire lui-même, ça se voit. Taisez-vous, cria furieusement l'officier. Je ne sais ce qui me retient de mettre le feu aux quatre coins du village. La colère, heureusement, l'empêchait de remarquer la profonde altération du visage de Françoise. Elle avait dû s'asseoir sur le banc de pierre près du puits. Malgré elle, ses regards ne quittaient plus ce cadavre étendu à terre, presque à ses pieds. C'était un grand et beau garçon qui ressemblait à Dominique, avec des cheveux blonds et des yeux bleus. Cette ressemblance lui retournait le cœur. Elle pensait que le mort avait peut-être laissé là-bas en Allemagne quelque amoureuse qui allait pleurer. Et elle reconnaissait son couteau dans la gorge du mort. Il l'avait tué. Cependant, l'officier parlait de frapper aux creuses de mesures terribles lorsque les soldats accoururent. On venait de s'apercevoir seulement de l'évasion de Dominique. Cela se causa une agitation extrême. L'officier se rendit sur les lieux, regarda par la fenêtre laissée ouverte, comprit tout et revint exaspéré. Le père Merlier parut très contrarié de la fuite de Dominique. « L'imbécile, murmura-t-il, il gâte tout. » Françoise, qui l'entendit, fut prise d'angoisse. Son père, d'ailleurs, ne soupçonnait pas sa complicité. Il hocha la tête en lui disant à mi-voix « À présent, nous voilà propres. » « C'est ce gredin !» criait l'officier. « Il aura gagné les bois, mais il faut qu'on nous le retrouve ou le village paiera pour lui. » Et s'adressant au meunier, « Voyons, vous devez savoir où il se cache. » Le père Merlier eut son rire silencieux en montrant la large étendue des coteaux boissés. « Comment voulez-vous trouver un homme là-dedans » dit-il. « Oh, il doit y avoir des trous que vous connaissez. Je vais vous donner 10 hommes, vous les guiderez. »« Je veux bien, seulement il nous faudra 8 jours pour battre tous les bois des environs. » La tranquillité du vieillard enrageait l'officier. Il comprenait en effet le ridicule de cette battue. Ce fut alors qu'il aperçut sur le banc Françoise pâle et tremblante. L'attitude anxieuse de la jeune fille le frappa. Il se tut un instant, examinant tour à tour le meunier et Françoise. « Est-ce que cet homme, finit-il par demander brutalement au vieillard, n'est pas l'amant de votre fille ?» Le père Merlier devint livide, et l'on put croire qu'il allait se jeter sur l'officier pour l'étrangler. Il se raidit, il ne répondit pas. Françoise avait mis son visage entre ses mains. « Oui, c'est cela, continua le Prussien. Vous, votre fille, l'avez aidé à fuir, vous êtes son complice. Une dernière fois, voulez-vous nous le livrer ?» Le meunier ne répondit pas. Il s'était détourné, regardant au loin d'un air indifférent, comme si l'officier ne s'adressait pas à lui. Cela mit le comble à la fureur de ce dernier. « Eh bien, déclara-t-il, vous allez être fusillé à sa place. » Et il commanda une fois encore le peloton d'exécution. Le père Merlier garda son flegme. Il eut à peine un léger haussement d'épaule. Tout ce drame lui semblait d'un goût médiocre. Sans doute il ne croyait pas qu'on fusillât un homme si aisément. Puis, quand le peloton fut là, il dit avec gravité « Ah, alors c'est sérieux !»« Je veux bien, ouf, si vous en faut un absolument, moi autant qu'un autre. » Mais Françoise s'était levée, affolée, bégayant « Grâce, monsieur, ne faites pas du mal à mon père, tuez-moi à sa place. » C'est moi qui ai aidé Dominique à fuir. Moi seul suis coupable. Tais-toi, fillette, s'écria le père Merlier. Pourquoi mens-tu? Elle a passé la nuit enfermée dans sa chambre, monsieur. Elle ment, je vous assure.
Non, je ne mens pas, reprit ardemment la jeune fille. Je suis descendue par la fenêtre. J'ai poussé Dominique à s'enfuir. C'est la vérité, la seule vérité. »
Le vieillard était devenu très pâle. Il voyait bien dans ses yeux qu'elle ne mentait pas, et cette histoire l'épouvantait. « Ah, ces enfants avec leur cœur, comme ils gâtaient tout !» Alors il se fâcha. « Elle est folle, ne l'écoutez pas, elle vous raconte des histoires stupides. Allons, finissons-en. » Elle voulut protester encore, elle s'agenouilla, elle joignit les mains. L'officier, tranquillement, assistait à cette lutte douloureuse. « Mon Dieu, finit-il par dire, je prends votre père parce que je ne tiens plus l'autre. » « Tâchez de retrouver l'autre et votre père sera libre. » Un moment, elle le regarda, les yeux agrandis par l'atrocité de cette proposition.
« Mais c'est horrible, murmura-t-elle. Voulez-vous que je retrouve Dominique à cette heure? Il est parti, je ne sais plus. »
« Enfin, choisissez lui ou votre père. »
« Oh, mon Dieu, est-ce que je puis choisir? Mais je saurai où est Dominique, je ne pourrai pas choisir. C'est mon cœur que vous coupez. J'aimerais mieux mourir tout de suite. Oui, ce serait plutôt fait. Tuez-moi, je vous en prie, tuez-moi. »
Cette scène de désespoir et de larmes finissait par impatienter l'officier. Il s'écria. « Oh, voilà assez, je veux être bon. Je consens à vous donner 2 heures. Si dans 2 heures... votre amour n'est pas là, votre père paiera pour lui. » Et il fit conduire le père Merlier dans la chambre qui avait servi de prison à Dominique. Le vieux demanda du tabac et se mit à fumer. Sur son visage impassible, on ne lisait aucune émotion. Seulement, quand il fut seul, tout en fumant, il pleura de grosses larmes qui coulèrent lentement sur ses joues. Sa pauvre et chère enfant, comme elle souffrait. Françoise était restée au milieu de la cour.
des soldats prussiens passaient en riant. Certains lui jetaient des mots, des plaisanteries qu'elle ne comprenait pas. Elle regardait la porte par laquelle son père venait de disparaître. Puis d'un geste lent, elle portait la main à son front comme pour l'empêcher d'éclater. L'officier tourna sur ses talons en répétant « Vous avez 2 heures, tâchez de les utiliser !» Elle avait 2 heures. Cette phrase bourdonnait dans sa tête. Alors, machinalement, elle sortit de la cour, elle marcha devant elle. Où aller? Que faire? Elle n'essayait même pas de prendre un parti, parce qu'elle sentait bien l'inutilité de ses efforts. Pourtant, elle aurait voulu voir Dominique. Ils se seraient entendus, tous les deux, ils auraient peut-être trouvé un expédient. Et au milieu de la confusion de ses pensées, elle descendit au bord de la Morelle, qu'elle traversa en dessous de l'écluse, un endroit où il y avait de grosses pierres. Ses pieds la conduisirent sous le premier saule au coin de la prairie. Comme elle se baissait, elle aperçut une mare de sang qui la fit pâlir. C'était bien là. Et elle suivit les traces de Dominique dans l'herbe foulée. Il avait dû courir, on voyait une ligne de grands pas coupant la prairie de biais. Puis, au-delà, elle perdit ses traces. Mais dans un pré voisin, elle crut les retrouver. Cela la conduisait à la lisière de la forêt où toute indication s'effaçait. Françoise s'enfonça quand même sous les arbres. Cela la soulageait d'être seule. Elle s'assit un instant, puis, en songeant que l'heure s'écoulait, elle se remit debout. Depuis combien de temps avait-elle quitté le moulin? 5 minutes? 1 demi-heure? Elle n'avait plus conscience du temps. Peut-être Dominique était-il allé se cacher dans un taillis qu'elle connaissait et où ils avaient, une après-midi, mangé des noisettes ensemble. Elle se rendit au taillis, le visita, un merle seul s'envola en sifflant sa phrase douce et triste. Alors elle pensa qu'il s'était réfugié dans un creux de roche où il se mettait parfois à l'affût. Mais le creux de roche était vide. À quoi bon le chercher? Elle ne le trouverait pas. Et peu à peu, le désir de le découvrir la passionnait et elle marchait plus vite. L'idée qu'il avait dû monter dans un arbre lui vint brusquement. Elle avança dès lors les yeux levés, et pour qu'il la sût près de lui, elle l'appelait tous les 15 à 20 pas. Des coucous répondaient, un souffle qui passait dans les branches lui faisait croire qu'il était là et qu'il descendait. Une fois même, elle s'imagina le voir. Elle s'arrêta, étranglée, avec l'envie de fuir. Mais qu'allait-elle lui dire? Venait-elle donc pour l'emmener et le faire fusiller? Oh non, elle ne parlerait point de ces choses. Elle lui crierait de se sauver, de ne pas rester dans les environs. Puis la pensée de son père qui l'attendait lui causa une douleur aiguë. Elle tomba sur le gazon en pleurant, en répétant tout haut, « Oh mon Dieu, pourquoi suis-je là ?» Elle était folle d'être venue, et comme prise de peur, elle courut, elle chercha à sortir de la forêt. 3 fois elle se trompa, et elle croyait qu'elle ne retrouverait plus le moulin, lorsqu'elle déboucha dans une prairie juste en face de Rocreuse. Dès qu'elle aperçut le village, elle s'arrêta. Est-ce qu'elle allait rentrer seule? Elle restait debout, quand une voix l'appela doucement. « Françoise! Françoise !» Et elle vit Dominique qui levait la tête au bord d'un fossé. Juste Dieu, elle l'avait trouvé. Le ciel voulait donc sa mort. Elle retint un cri, elle se laissa glisser dans le fossé. « Tu me cherchais ? » demanda-t-il. « Oui, répondit-elle, la tête bourdonnante, ne sachant ce qu'elle disait. Que se passe-t-il ?
Elle baissa les yeux, elle balbutia.
Mais rien, j'étais inquiète, je désirais te voir.
Alors, tranquillisé, il lui expliqua qu'il n'avait pas voulu s'éloigner. Il craignait pour eux. Ces gredins de Prussiens étaient très capables de se venger sur les femmes et sur les vieillards. Enfin, tout allait bien. Et il ajouta en riant,
« La noce sera dans 8 jours, voilà tout. »
Puis comme elle restait bouleversée, il redevint grave.
« Mais qu'as-tu ? Tu me caches quelque chose. »« Non, je te jure, j'ai couru pour venir. »
Il l'embrassa en disant que c'était imprudent pour elle et pour lui de causer davantage. Et il voulut remonter le fossé afin de rentrer dans la forêt. Elle le retint, elle tremblait.
« Écoute, tu ferais peut-être bien tout de même de rester là. Personne ne te cherche, tu ne crains rien.
« Françoise, tu me caches quelque chose, » répéta-t-il. De nouveau, elle jura qu'elle ne lui cachait rien. Seulement, elle aimait mieux le savoir près d'elle, et elle bégaya encore d'autres raisons. Elle lui parut si singulière que maintenant lui-même aurait refusé de s'éloigner. D'ailleurs, il croyait au retour des Français. On avait vu des troupes du côté de Sauval.
« Ah, qu'il se presse, qu'il soit ici le plus tôt possible !» murmura-t-elle avec ferveur.
À ce moment, 11 heures sonnèrent au clocher de Rocreuse. Les coups arrivaient clairs et distincts. Elle se leva effarée, il y avait 2 heures qu'elle avait quitté le moulin.
« Écoute, dit-elle rapidement, si nous avons besoin de toi, je monterai dans ma chambre et j'agiterai mon mouchoir. »
Et elle partit en courant, pendant que Dominique, très inquiet, s'allongeait au bord du fossé pour surveiller le moulin. Comme elle allait rentrer dans Rocreuse, Françoise rencontra un vieux mendiant, le père Bontemps, qui connaissait tout le pays. Il la salua, il venait de voir le meunier au milieu des Prussiens. Puis, en faisant des signes de croix et en marmottant des mots entrecoupés, il continua sa route.
« Les 2 heures sont passées, » dit l'officier, quand Françoise parut. Le père Merlier était là, assis sur le banc près du puits. Il fumait toujours. La jeune fille, de nouveau, supplia, pleura, s'agenouilla. Elle voulait gagner du temps. L'espoir de voir revenir les Français avait grandi en elle. Et tandis qu'elle se lamentait, elle croyait entendre au loin les pas cadencés d'une armée. Oh, s'ils avaient paru, s'ils les avaient tous délivrés.
Écoutez, monsieur, 1 heure, encore 1 heure. Vous pouvez bien nous accorder 1 heure.
Mais l'officier restait inflexible. Il ordonna même à 2 hommes de s'emparer d'elle et de l'emmener pour qu'on procédât à l'exécution du vieux tranquillement. Alors un combat affreux se passa dans le cœur de Françoise. Elle ne pouvait laisser ainsi assassiner son père. Non, elle mourrait plutôt avec Dominique. Et elle s'élançait vers sa chambre lorsque Dominique lui-même entra dans la cour. L'officier et les soldats poussèrent un cri de triomphe. Mais lui, comme s'il n'y avait eu là que Françoise, s'avança vers elle, tranquille, un peu sévère.
« C'est mal, dit-il. Pourquoi ne m'avez-vous pas ramené ?
Il a fallu que le père Bontemps me contât les choses. Enfin, me voilà. » Il était 3 heures. De grands nuages noirs avaient lentement empli le ciel, la queue de quelques orages voisins. Ce ciel jaune, ses haillons cuivrés, changeait la vallée de Rocreuse, si gaie au soleil, en un coupe-gorge plein d'une ombre louche. L'officier prussien s'était contenté de faire enfermer Dominique sans se prononcer sur le sort qu'il lui réservait. Depuis midi, Françoise agonisait dans une angoisse abominable. Elle ne voulait pas quitter la cour malgré les instances de son père. Elle attendait les Français. Mais les heures s'écoulaient. La nuit allait venir et elle souffrait d'autant plus que tout ce temps gagné ne paraissait pas devoir changer l'affreux dénouement. Cependant, vers 3 heures, les Prussiens firent leurs préparatifs de départ. Depuis un instant, l'officier s'était, comme la veille, enfermé avec Dominique. Françoise avait compris que la vie du jeune homme se décidait. Alors elle joignit les mains, elle pria. Le père Merlier, à côté d'elle, gardait son attitude muette et rigide de vieux paysan qui ne lutte pas contre la fatalité des faits. « oh mon Dieu !» balbutiait Françoise, « ils vont le tuer !» Le meunier la tira près de lui et la prit sur ses genoux comme un enfant. À ce moment, l'officier sortait, tandis que derrière lui, 2 hommes amenaient Dominique. « Jamais, jamais !» criait ce dernier, « je suis prêt à mourir !»« Réfléchissez bien !» reprit l'officier. « Ce service que vous me refusez, un autre nous le rendra. Je vous offre la vie, je suis généreux. Il s'agit simplement de nous conduire à Mondredon à travers bois. Il doit y avoir des sentiers. » Dominique ne répondait plus. « Alors vous vous entêtez. »« Mais tuez-moi et finissons-en, » répondit-il. Françoise, les mains jointes, le suppliait de loin. Elle oubliait tout, elle lui aurait conseillé une lâcheté. Mais le père Merlier lui saisit les mains pour que les Prussiens ne vissent pas son geste de femme affolée. « Il a raison, » murmura-t-il, « il vaut mieux mourir. » Le peloton d'exécution était là. L'officier attendait une faiblesse de Dominique. Il comptait toujours le décider. Il y eut un silence. Au loin, on entendait de violents coups de tonnerre. Une chaleur lourde écrasait la campagne. Et ce fut dans ce silence qu'un cri retentit. « Les Français ! Les Français !» C'était eux, en effet. Sur la route de Sauval, à lisière du bois, on distinguait la ligne des pantalons rouges. Ce fut dans le moulin une agitation extraordinaire. Les soldats prussiens couraient avec des exclamations gutturales. D'ailleurs, pas un coup de feu n'avait encore été tiré. « Les Français ! Les Français !» cria Françoise en battant des mains. Elle était comme folle. Elle venait de s'échapper de l'étreinte de son père et elle riait, les bras en l'air. Enfin, ils arrivaient donc, et ils arrivaient à temps, puisque... Dominique était encore là, debout. Un feu de peloton terrible, qui éclata comme un coup de foudre à ses oreilles, la fit se retourner. L'officier venait de murmurer « Avant tout, réglons cette affaire » et, poussant lui-même Dominique contre le mur d'un hangar, il avait commandé le feu. Quand Françoise se tourna, Dominique était par terre, la poitrine trouée de 12 balles. Elle ne pleura pas, elle resta stupide. Ses yeux devinrent fixes et elle alla s'asseoir sous le hangar à quelques pas du corps. Elle le regardait. Elle avait par moments un geste vague et enfantin de la main. Les Prussiens s'étaient emparés du père Merlier comme d'un otage. Ce fut un beau combat. Rapidement, l'officier avait posté ses hommes, comprenant qu'il ne pouvait battre en retraite sans se faire écraser. Autant valait-il vendre chèrement sa vie. Maintenant, c'étaient les Prussiens qui défendaient le moulin et les Français qui l'attaquaient. La fusillade commença avec une violence inouïe. Pendant une demi-heure, elle ne cessa pas. Puis un éclat sourd se fit entendre et un boulet cassa une maîtresse branche de l'orme séculaire. Les Français avaient du canon, une batterie dressée juste au-dessus du fossé dans lequel s'était caché Dominique, balayait la grande rue de Rocreuse. La lutte désormais ne pouvait être longue. Ah, le pauvre moulin! Des boulets le perçaient de part en part. Une moitié de la toiture fut enlevée. Deux murs s'écroulèrent. Mais c'était surtout du côté de la Morelle que le désastre devint lamentable. Les lierres arrachées des murailles ébranlées pendaient comme des guenilles. La rivière emportait des débris de toutes sortes et l'on voyait par une brèche la chambre de Françoise avec son lit dont les rideaux blancs étaient soigneusement tirés. Coup sur coup, la vieille roue reçut deux boulets et elle eut un gémissement suprême. Les palettes furent charriées dans le courant, la carcasse s'écrasa. C'était l'âme du gai moulin qui venait de s'exhaler. Puis les Français donnèrent l'assaut. Il y eut un furieux combat à l'arme blanche. Sous le ciel couleur de rouille, le coupe-gorge de la vallée s'emplissait de morts. Les larges prairies semblaient farouches, avec leurs grands arbres isolés, leurs rideaux de peupliers qui les tachaient d'ombre. À droite et à gauche, les forêts étaient comme les murailles d'un cirque qui enfermaient les combattants, tandis que les sources, les fontaines et les eaux courantes prenaient des bruits de sanglots dans la panique de la campagne. Sous le hangar, Françoise n'avait pas bougé, accroupie en face du corps de Dominique. Le père Merlier venait d'être tué raide par une balle perdue. Alors, comme les Prussiens étaient exterminés et que le moulin brûlait, le capitaine français entra le premier dans la cour. Depuis le commencement de la campagne, c'était l'unique succès qu'il remportait. Aussi, tout enflammé, grandissant sa haute taille, riait-il de son air aimable de beau cavalier. Et, apercevant Françoise imbécile entre les cadavres de son mari et de son père, au milieu des ruines et des mines fumantes du moulin, il la salua galamment de son épée en criant « Victoire! Victoire !»